Bonsoir à tous, effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Dans ce numéro de ce lundi 27 janvier, un seul sujet à la une, le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 en cours. Pour décrypter tout cela, comme d'habitude, eh bien, Élisée Nkpatin depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci.
Où, actuellement à Rabat, c'est bien sûr un compatriote qui anime bien sûr ce tirage au sort.
On aurait préféré bien sûr avoir Élisée Nkpatin justement du côté de Rabat. On va en parler. Jules Valentin Ngwe nous rejoint depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et puis, Amdine Si est à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous. Alors, Amine Birouk, vous tous, bien sûr, vous l'attendiez sans doute. Il va intervenir de temps à autre dans cette édition. Lui qui suit ce tirage au sort du côté de Rabat au Maroc. Merci à tous, en tout cas, de votre présence. Et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Je le disais, le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a lieu présentement au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Ce tirage au sort marque le point de départ symbolique de la compétition qui verra les 24 sélections qualifiées réparties dans 6 groupes de 4 équipes. Pour le moment, les groupes ne sont pas encore constitués. La cérémonie, bien sûr, se poursuit. On va donc parler des différents chapeaux, les 4 chapeaux, bien sûr, où on retrouve la plupart des équipes là. Dans le chapeau 1, on a le Maroc, 14e au classement FIFA, qui est le pays organisateur. On a le Sénégal, 17e au classement FIFA. L'Égypte, 33e au classement FIFA. L'Algérie, 37e. Le Nigeria, 44e. La Côte d'Ivoire, et donc la dernière vainqueur, disons, de cette CAN-là, 46e, et tenant donc du titre. Alors, Jules Valentin Ngwe, quand on prend le chapeau 1, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la crème du football africain qui est regroupée dans ce chapeau 1-là?
Oui, bien sûr, ça ne peut être que la crème, et sauf que c'est la crème revisée, parce que là, on fait le classement en fonction de la forme du moment. Et on est étonné, on peut être étonné de ne pas trouver, par exemple, le Cameroun ou la Tunisie ou la RDC, par exemple. Mais pour le moment, au vu des compétitions qui sont déroulées et juste depuis la dernière coupe, ce sont ces équipes-là qui méritent d'être dans le premier chapeau.
Alors, Amdine Si, quand on regarde bien sûr la composition de ce premier chapeau-là, est-ce qu'on parlerait de renouvellement du niveau du foot sur le terrain?
Tout à fait, hein, Yacouba. D'abord, si on regarde quand même ce chapeau 1, la première chose à remarquer, c'est 6 équipes qui ont déjà gagné cette CAN. Que ce soit la Maroc, c'est vrai, le Maroc qui a gagné une fois, c'est vrai, et le Sénégal, mais l'Égypte 7 titres, l'Algérie 2 titres, le Nigeria et la Côte d'Ivoire également. Donc, je pense que ce sont des pays qui sont en train de dérouler en ce moment. Le Maroc, quoi qu'on dise, je pense que c'est la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle. L'Égypte, n'en parlons pas. L'Égypte, c'est l'équipe la plus régulière dans ce continent. L'Algérie, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas tellement ça. Mais en 2019 seulement, l'Algérie avait gagné cette CAN. Il y a le Nigeria, toujours égal à lui-même, et la Côte d'Ivoire qui vient de gagner la dernière CAN. Je pense qu'on ne peut rien dire par rapport à ce chapeau qui est composé de 6 équipes qui sont des cadres de grosses légendes sur le football continental élysée.
Yacouba, bien sûr, Amdine Si.
Yacouba, j'ai tellement l'habitude de parler à mon ami.
Bien évidemment, on vous comprend parfaitement. Alors, je le disais, le tirage au sort est en cours. On va revenir sur les différents chapeaux, 2, 3 et 4, mais en attendant, on va parler du logo, disons, de cette 35e édition qui est connue avant, bien sûr, ce tirage au sort-là. Et tout de suite, c'est avec Amine Birouk.
C'est une synthèse entre la modernité et la tradition. La tradition avec le zellige marocain que vous pouvez retrouver dans les palais, dans les grandes demeures au Maroc, et qui demeure un élément unique qui fait partie du patrimoine marocain. C'est un hommage aux artisans marocains et à la passion du Marocain pour le football. Il faut dire aussi que le Maroc est un pays d'hospitalité. L'Afrique aura la possibilité de le découvrir. Et donc cette synthèse qui regroupe passion, tradition et hospitalité sont aujourd'hui mis en valeur à travers ce logo officiel que vous allez pouvoir découvrir, ou que vous avez découvert d'ailleurs dans les minutes qui suivent. Et ce qui est certain, c'est que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui attendra l'Afrique du football dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à travers les multiples manifestations qui vont précéder la CAN avant l'ouverture et l'inauguration officielle le 21 décembre 2025.
Alors justement, en parlant de logo, je le disais, on va revenir sur le chapeau de tout à l'heure, mais on va quand même marquer le coup sur cette question de logo. Alors, Jules Valentin Ngoué, on le voit à travers justement les différents logos des différentes éditions de la CAN, c'est aussi les richesses des pays accueillants qui sont mises en valeur.
Bien sûr, c'est une sorte de drapeau du pays, drapeau avec en quelque sorte une insistance sur l'histoire, la géographie du pays, la culture, et en quelque sorte on se retrouve devant un symbole qui peut servir de moteur aussi au tourisme dans le pays concerné. Donc, on n'est pas étonné qu'un pays comme le Maroc, qui est au carrefour de toutes les influences méditerranéennes et mondiales, d'ailleurs depuis la préhistoire, ait pensé à faire, en quelque sorte, un logo qui puisse attirer l'attention de tout le monde.
Voilà, dans le chapeau 2, on retrouve le Cameroun de Jules Valentin Ngoué, justement, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Burkina Faso. Alors, Élisée, qu'est-ce que vous pensez de ce chapeau 2-là?
Ce chapeau aussi peut quand même aller très loin dans cette compétition, puisque quand on prend le premier chapeau, on remarque que bon, on pourra dire que le dernier carré pourra se situer à ce niveau. Mais n'oublions aussi pas que la RDC était demi-finaliste lors de la dernière édition qui a eu lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut dire simplement que les deux chapeaux, le premier et le second, c'est véritablement les favoris qui se trouvent. Et c'est vrai que bon, on pourra parler de super favoris, on pourra parler de prétendants, on pourra parler de tout ce que nous voulons. Mais n'oublions pas que le Cameroun reste le Cameroun, quoi qu'on dira du football africain, le Cameroun et l'Égypte, c'est quand même deux pays qui se sont quand même détachés de cette compétition. Donc, on n'oubliera jamais le Cameroun, surtout avec son nouvel entraîneur qui est en train de battre presque tous les records, puisque là, déjà qualifié pour cette compétition à deux journées de la fin, ce n'est plus arrivé depuis fort longtemps. Et on parlera aussi du Burkina Faso qui, quand même, est resté constant depuis l'édition où elle est allée jusqu'en finale. C'est vrai que bon, les finales ne se sont plus suivies, mais quand même, c'est une équipe qui a monté de très belles choses durant les deux dernières éditions. N'oublions pas le Mali aussi, le Mali qui reste quand même. Moi, je vais comparer le Mali au Sénégal, le Mali qui contient des viviers de très bons talents de football sur le continent, mais qui n'y arrive toujours pas à remporter la compétition. Le Sénégal a dû patienter. C'est ce que le Mali aussi doit faire, puisque le Mali a quand même de très bons talents et là, avec Tom Saint-Fiette, eh bien, on espère que cette équipe malienne pourra quand même aller pour une fois en finale de cette compétition. Sinon, pour le reste, l'Afrique du Sud de Hugo Broos, l'Afrique du Sud qui a créé la sensation lors de la dernière édition, même si quand même elle n'a pas pu aller en finale. Donc, c'est quand même un chapeau où on peut quand même citer des prétendants pour le trophée.
On espère bien pour tous ces composants de ce chapeau de là. On dirait tout simplement bonne chance. Et donc, toutes les équipes veulent remporter cette canne-là. Et donc, je le rappelle, la cérémonie se poursuit du côté de Rabat au Maroc, entre autres personnalités que j'ai pu voir à travers, bien sûr, le petit écran qui est devant moi. Eh bien, il s'agit d'Aliou Cissé, on dira l'ancien sélectionneur du Sénégal qui fait partie des mains innocentes qui vont procéder au tirage au sort là. Et donc, je le disais, de nombreuses personnalités sont présentes à Rabat pour ce tirage. Amine Birouk nous cite quelques-unes d'entre elles.
Nous sommes servis à ce niveau-là avec le Camerounais Patrick Mboma, l'Égyptien Issam El-Hadary. Mboma, on rappelle, champion olympique avec le Cameroun en 2000, champion d'Afrique en 2000 et 2002. Issam El-Hadary a gagné 3 cannes d'affilée, 2006, 2008, 2010. Ça a été une légende du football égyptien en tant que gardien de but. L'Ivoirien Gervinho, le Malien Momo Sissoko. Bien évidemment, le Tunisien Metlouti, voilà, les figures de pro qui ont vécu, qui seront là et qui permettront à l'Afrique de découvrir les feuilles de route des multiples sélections qui disputent cette CAN. Le Maroc a pensé également à rendre hommage à ses champions d'Afrique 1976 et des surprises qui s'esquissent avec notamment la cérémonie du trophée qui apparaîtra portée par un joueur de l'équipe du Maroc, champion d'Afrique 1976, en pensant en particulier au mythique Baba qui avait inscrit le but contre la Guinée. Et puis d'autres personnalités qui sont là en marge, Mustapha Hadji, qui fait figure d'ambassadeur de la CAF et qui sera là, qui a déjà été interviewé par la Confédération africaine de football pour livrer son ressenti concernant la compétition, sans oublier les personnalités qui sont là et qui sont des présidents de fédérations continentales, les sélectionneurs nationaux. Tout à l'heure, nous avons vu Walid Regragui, Tom Saint-Flitt, Marc Brice, et puis il y aura Brader, Patrice Motsepe, qui ne manquera pas et qui ne manque toujours pas de faire un petit speech à l'occasion de cette manifestation pour parler de l'importance de la CAN 2025 et de ce rassemblement sous le nom de la Fraternité africaine.
Alors, Jules Valentin Ngoué, on l'a remarqué depuis, bien sûr, l'ère Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF, le prédécesseur donc de Patrick Motsepe. De plus en plus, ces personnalités du foot africain, que ce soit des anciens joueurs ou des anciens dirigeants, sont de plus en plus associés aux événements sportifs qu'organise l'instance africaine du ballon rond sur le continent. On dira que c'est tout bénef pour les plus jeunes.
Mais bien sûr! Bien sûr, d'abord, il faut dire que avant le football ne représentait pas, disons que sur le plan économique, la valeur qu'il représente actuellement et dont les footballeurs étaient pauvres. Les footballeurs étaient pauvres. Ces vedettes-là qui nous ont fait rêver dans tous les sens ont souvent sombré et dans l'oubli, même parfois dans la misère. Donc, les ressortir ainsi, les remettre devant les feux des projecteurs et sûrement avec, une prime conséquente, cela ne fait que montrer que le football est une grande famille de football africain aussi, une grande famille et que les vedettes doivent rester, les dieux doivent rester à l'Olympe. Donc, c'est une très bonne chose.
Alors, Amdine Sy, on a vu de par le passé, sinon même actuellement, des anciens footballeurs surtout, crier misère après leur carrière. De plus en plus, on voit ces anciens footballeurs-là qui se reconvertissent, que ce soit dans l'entraînement ou le coaching et autres, ou encore, comme Samson par exemple, qui se retrouve au niveau de la CAF et qui organise toutes ces cérémonies de tirage au sort-là. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, il y a une fenêtre de sortie du terrain?
Oui, 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 je pense que c'est tout à fait normal ce qu'on est en train de voir. Le football, aux footballeurs, aux anciens dirigeants, ils ont tout donné sur le rectangle vert. Donc, je pense qu'il est normal qu'ils soient récompensés ainsi, puisque, par exemple, si je donne l'exemple seulement du Sénégal, Aliou Cissé qui a été finaliste en 2002 au Cameroun, qui revient pour donner au Sénégal quand même son premier titre de l'histoire. C'est tout à fait normal que ce Aliou Cissé soit récompensé à sa juste valeur par les Sénégalais. Une reconnaissance, c'est une sorte de reconnaissance pour ces anciens qui nous ont donné des prestations. Quand je vois Yebo sur le tirage au sort, quand il voit un Gervinho, c'est des gens qui ont tout fait pour le football de leur pays, mais pour le football du continent. Je pense que c'est tout à fait normal ce qui se passe actuellement pour les anciens footballeurs. Et ce sont des légendes en quelque sorte, Yacouba.
Merci Amdine Sy. Je vais juste rappeler que le tirage au sort a commencé donc du côté de Rabat. Peut-être qu'avant la fin de cette émission, dans une douzaine de minutes, on aura un groupe constitué ou pas. En tout cas, pour le moment, ne bougez pas. Vous suivez Sporama sur VO Afrique. On va marquer juste une courte pause, si Lionel bien sûr le permet. Et on revient tout de suite. Voilà, je rappelle que vous suivez Sporama sur VO Afrique et en ce lundi 27 janvier 2025 se tient présentement à Rabat au Maroc la cérémonie du tirage au sort de la CAN Maroc 2025. On est en train d'égrener les différents chapeaux de ce tirage-là et donc il y en a quatre. Dans le chapeau 3, on retrouve le Gabon, l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, la Guinée équatoriale et le Bénin. Alors, Jules Valentin Ngoué, parlant justement du Gabon, vous êtes à Libreville. Il y a de fortes chances, par exemple, ou encore, je ne dirais pas chance ou malchance, je ne sais pas, que le Gabon rencontre des équipes comme le Cameroun, la RDC ou encore le Maroc, le Sénégal. Finalement, se retrouver dans ce chapeau 3-là, pour ce qui est particulièrement du Gabon, bonne affaire ou pas?
Mais ce qui est certain, c'est que c'est ce qui correspond au standing du Gabon, en fait, et surtout le standing actuel. Et il faut le dire. Et il faut aussi rappeler que dans ce tirage au sort, les quatre meilleurs troisièmes, c'est-à-dire quatre troisièmes sur six, rentrent dans le jeu pour la suite de la compétition, les huitièmes de finale. Donc, en fait, très peu d'équipes sont éliminées. Et ces équipes qui vont sortir du troisième ou du quatrième chapeau, qui vont venir en outsider, n'auront pas la pression et pourront jouer les troubles fêtes. Pour le moment, la fête va commencer dès le début de la compétition, mais après, on ne sait pas ce qui va se passer.
Justement, parlons bien sûr des 24 équipes qui prennent part à la Coupe d'Afrique des Nations. Désormais, Jules Valentin Ngoué, vous faites bien de le souligner. Eh bien, les trois meilleures équipes sont repêché, on va dire comme ça, pour le tour suivant, est donc bonne chose, sans doute, et ça crée aussi de la compétitivité au sein des groupes. Alors, Élisée Mpatin, on parle toujours du chapeau 3, qui comprend bien sûr le Bénin. Comment vous commentez cela au Bénin, justement?
Oui, on essaie de se retrouver dans un groupe abordable, puisque ce qui est sûr, on va hériter quand même une grosse équipe du chapeau 1 et de 2, en tout cas, et puis un troisième, un quatrième chapeau, j'allais dire, il y aura le Mozambique, les Comores, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe, le Botswana. Et donc, c'est dire que une chose est sûre, on va pas éviter deux gros morceaux dans cette compétition. Donc, on s'y habitue, puisque là, on s'est qualifié difficilement, hein, et on se rappelle de ce ultime match qui a eu lieu du côté de Tripoli contre la Libye, où il fallait ne pas perdre, eh bien, on s'est contenté d'un nul afin d'assurer cette qualification. Maintenant, c'est de bien préparer, hein, ce tournoi, puisqu'il reste encore 11 mois, et avant les 11 mois, il y aura les trois matchs décisifs, hein, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, que de la matière, hein, pour pouvoir préparer cette compétition. La première information, c'est que Yacouba, il faut le dire, pour le match d'ouverture, on aura un certain Maroc. Comment vous imaginez deux pays musulmans?
Élisée, ça n'a rien à voir. Alors, justement, Amdine Sy, et donc Maroc, Comores en match d'ouverture, un mot. Je rappelle que la cérémonie se poursuit.
Non, c'est le favori numéro un qui est le Maroc, pays hôte, pays qui n'a pas gagné cette Coupe d'Afrique depuis 1966, ça date de très longtemps, alors que le Maroc a eu des générations exceptionnelles avec les Aziz Bouderbala, vous vous rappelez, les Moustapha Hadji, le Maroc qui a brillé en Coupe du Monde, mais ne parvenait pas à gagner cette Coupe d'Afrique pour la deuxième fois. Et pour le moment, le Maroc qui a donné à l'Afrique sa première demi-finale au niveau de la Coupe du Monde et qui reçoit cette grande messe du football continental, qui reçoit favori numéro 1 face à qui? Comores. Comores, vous le connaissez très bien, c'est un petit poussé, mais un petit poussé qui a réussi à créer la sensation. On se rappelle encore de ce match contre le Cameroun où il n'avait pas de gardien de but. Donc, c'est un match où tout peut arriver. C'est vrai, le Maroc reste favori, mais attention aux Comores, Yacouba.
Attention aux Comores, bien sûr, et donc pas de petite équipe sur le continent désormais. Dans le chapeau 4, on retrouve le Mozambique, les Comores justement, la Tanzanie, le Soudan, le Zimbabwe et le Botswana. Alors, Jules Valentin Ngoué, j'avoue que l'équipe qui attire mon attention dans ce chapeau 4-là, c'est le Soudan.
Bien sûr, le Soudan qui attire notre attention, non seulement pour cette compétition, mais aussi pour les compétitions du club. Et parce que ce pays est meurtri par une guerre cruelle et donc les forces sportives de ce pays évoluent essentiellement à l'extérieur. Et on se demande avec quelle morale. Alors le Soudan se trouve là, c'est une preuve que la vie finit toujours par prendre en quelque sorte ses droits. Et nous sommes contents de voir une équipe qui ne veut pas mourir, qui veut continuer à vivre malgré les problèmes qui, en quelque sorte, s'abattent sur son pays.
Bien évidemment, il faut vivre malgré tout. Pour ce qui est connu, bien sûr, pour cette CAN 2025, ce sont les stades qui vont abriter les différents matchs. Et on fait le point avec Amin Birouk.
On peut retenir des stades flambants neufs qui ont été remis à jour ou d'autres qui ont subi un gros lifting. On peut commencer par le complexe Merabla de Rabat qui accueillera le match d'ouverture, une demi-finale, la finale et les matchs de l'équipe du Maroc. C'est un stade qui est en train de renaître de ses cendres. 68 000 supporters et qui est déjà dans les prochaines semaines aux standards, aux normes de la Coupe du Monde 2030. On peut penser aussi aux trois autres stades de la ville de Rabat. Et en particulier au stade Al-Barid, 22 000 places, le stade Moulay Hassan de Rabat, 20 000 places, et le stade Moulay Abdallah Bis, qui est à quelques mètres du stade Moulay Abdallah, et qui sera destiné dans les prochaines semaines et les prochains mois à accueillir le meeting de la Diamond League d'athlétisme, avec son enceinte et 20 000 places également. Ce seront des stades qui serviront non seulement au match, mais également aux entraînements des équipes. J'ajouterai à cela le stade de Tanger, 78 000 places, qui est destiné à accueillir les matchs des groupes, un quart de finale et une demi-finale. Sans oublier le mythique complexe Mohamed V, qui subit un gros lifting en ce moment, avec ses 46 000 places, et qui accueillera les matchs de groupe. Un huitième, un quart de finale et la petite finale, et puis trois autres joyaux qui ont vu le jour en 2011 et qui vont subir et qui subissent en ce moment des travaux d'aménagement. Le grand stade de Marrakech, 46 000 places, qui accueillit, je le rappelle, les Coupes du Monde des clubs en 2013 et 2014. Le grand stade d'Agadir, 40 000 places, et le complexe sportif de la ville de Fès avec son enceinte qui accueillera les 35 000 places. Voilà, ça donne 8 stades, 24 stades d'entraînement, un par sélection, les stades d'entraînement pour les arbitres et les multiples infrastructures qui seront mises à disposition des sélections qui viendront disputer la compétition à partir du 21 décembre prochain au Maroc.
Alors, Amdine Sy, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que le Maroc est quand même prêt, plus ou moins.
Ah oui, le Maroc est prêt. Le Maroc qui va organiser quand même, ne l'oubliez pas, qui fait partie des pays qui vont organiser la Coupe du Monde. Le Maroc, moi, à chaque fois que je mets les pieds là-bas, je me dis que je suis presque en Europe. Il y a tout sur le plan des infrastructures pour le sport, que ce soit en football, que ce soit en basket, que ce soit en volley. Donc le Maroc est fait prêt pour réussir non seulement le défi de l'organisation, l'autre défi sera de la participation. Mais pour celui de l'organisation, moi, j'ai confiance au Maroc à 200% parce que je connais le Maroc, j'ai vu les infrastructures sportives des Marocains. Sur ce point, je peux dormir tranquille et les Africains peuvent dormir tranquille, Yacouba.
On espère bien sûr que l'engouement populaire va accompagner ces différentes infrastructures sportives qui vont accueillir cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez, la cérémonie du tirage au sort se poursuit, mais pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que le groupe A est presque constitué. Donc le pays hôte, le Maroc, va être logé avec la Zambie et les Comores en attendant le quatrième pays qui va être connu. Dans le groupe B, on retrouve l'Angola et le Zimbabwe pour le moment. Dans le groupe C, on a l'Ouganda et la Tanzanie pour le moment, je rappelle. Et bien évidemment, dans le groupe D, d'Élysée Mkpatin, eh bien, on a le Botswana et le Bénin. Et puis, dans le groupe E, on a la Guinée équatoriale et le Soudan, je dirais de Jules Valentin Ngoué. Et puis, toujours dans la formation des différents groupes là, eh bien, deux pays sont connus dans le groupe F. Le dernier, il s'agit du Gabon et du Mozambique. Jules Valentin Ngoué, très rapidement.
Oui, mais ce qui est certain, c'est que ce soit le Gabon ou le Mozambique, nous avons affaire à des puissances émergentes qui ont changé de catégorie et qui vont sûrement être libérées parce qu'elles n'auront pas la pression.
On espère bien qu'elles n'auront pas la pression. Elles vont se libérer donc, les amis de notre Jules, hein, Valentin Ngoué. On va rappeler juste que la CAN 2025, c'est du 21 décembre de cette année au 18 janvier 2026. C'est donc une CAN qui se chevauche sur 2 ans. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci en tout cas à nos consultants Élisée Mkpatin, Jules Valentin Ngwe, Amine Birouk et Amdine Sy. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Lionel Gaïma, à qui on dit un grand merci. Je suis Yacouba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir.